Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, je viens de lancer ma propre marque de vêtements qui s'appelle Réunis. Et je me suis dit que ça serait intéressant, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode, de faire de mon expérience d'entrepreneur débutant une étude de cas. J'avais vraiment envie de documenter cette aventure puisque pour qu'elle puisse servir en fait à certains d'entre vous. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on montre assez rarement, l'envers du décor. Et quand les gens racontent a posteriori leur expérience des tout débuts, c'est un petit peu modifié. C'est pas forcément une volonté, mais vous savez, les entrepreneurs, c'est souvent des gens qui sont des optimistes, des grands optimistes. Moi aussi, je le suis. Et quand on est un optimiste, on a tendance un petit peu à oublier, à avoir une mémoire sélective qui fait qu'on oublie rapidement les galères, les échecs du tout début. En tout cas, avec ce podcast et avec cet épisode, j'aimerais bien être le plus transparent et objectif possible et ne pas transformer du tout la réalité. J'ai voulu aussi faire cet épisode parce que créer une marque de mode, c'est hyper difficile. Et franchement, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que c'est hyper difficile et c'est encore plus difficile que je ne l'imaginais. Ce que j'ai toujours, c'est que pour faire une marque de mode, il faut être fort en tout. Il faut être bon sur tout. On n'a pas le choix d'être bon sur tout. Je m'explique. Faire une marque de mode, il faut être bon sur le produit, sur le design, il faut être bon sur la fabrication, il faut être bon sur la com, sur l'image, il faut être fort en logistique pour livrer tes clients à temps, il faut être fort en finance, en compta, et sans compter la partie et la dimension éco-responsable, sustainability, etc., sur lequel je reviendrai un petit peu plus longuement. Même si c'est un point essentiel, je vous assure, on ne se rajoute pas forcément une facilité. Donc dans ce premier épisode, je vais vous raconter toute l'histoire de Réunis et du groupe Ulivers depuis l'idée jusqu'au lancement de la campagne de crowdfunding sur Ulule qui est, entre parenthèses, toujours en cours à l'heure où je vous parle. On est le 19 novembre 2019 et on a vendu près de 500 pulls. Je vais vous présenter les personnes, les personnages, comme j'aime bien dire, qui m'ont aidé à créer Réunis, vous dire pourquoi on fait les choses, comment on s'y est pris depuis le premier jour. Je vais vous expliquer les choix qu'on a faits, les galères et les petites victoires qu'on a eues et ce qu'on essaie de construire avec Réunis. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, des épisodes comme celui-ci, et que ces épisodes feront office de journal de bord. Pour commencer, cet épisode, je voulais revenir un petit peu sur mon histoire personnelle. Vous le savez, si vous écoutez mon podcast, je pose toujours cette question-là en tout début. Est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à la création de ta marque ou jusqu'au lancement de ton business? Parce que je crois que en fait, tout se passe dans l'enfance et c'est ces premiers amours, cette première rencontre avec ce qu'on va faire de sa vie. Je crois que ça se passe souvent quand même dans la petite enfance. Donc mon envie de faire de la mode remonte à assez loin pour ma part. Cette envie, elle a pris naissance dans mes premières rencontres avec l'art. Ça a commencé avec les impressionnistes de l'école de Pont-Aven, alors que j'étais en CE1 et ça s'est jamais arrêté. Et c'est grâce à une professeure que j'ai eue, enfin une instite, qui s'appelait Odile Le Poulichet, qui était une instite qui était assez extraordinaire, avec des robes de toutes les couleurs, des cheveux noirs, très longs. Et chaque vendredi après-midi, en fin de journée, elle nous montrait des photos, des posters de ces impressionnistes de Pont-Aven, de l'école de Pont-Aven. Et je crois que c'était vraiment ma première rencontre avec l'art et ça a marqué le reste de mon existence. Donc tout le long de mon enfance, de mon adolescence, j'ai fait beaucoup de dessins, de photos, de sculptures, de bricolage, de musique. J'ai fait de la batterie aussi pendant longtemps. Et j'en fais encore de temps en temps, mais bon, j'ai quand même beaucoup moins de temps pour le faire. Et donc, j'ai toujours su au fond de moi que je ferais un métier artistique. Je savais même que je ferais quelque chose dans la mode. Je le savais, j'en étais persuadé, mais je vous expliquerai un petit peu après. Mais je me suis un petit peu oublié et j'ai fait autre chose en début de carrière. Ce qui me plaisait dans la mode, c'était que c'est une synthèse de plein de métiers. Quand tu fais de la mode, tu fais de la sculpture, tu fais de l'image, tu fais de l'art, tu fais du commerce aussi. Et ça me rappelle d'ailleurs une phrase de Jean Twitou que je salue et que j'ai toujours pas interviewé, que j'espère bien un jour interviewer. Un jour, il a dit dans un interview de Click TV avec Mouloud Achour, « La mode, c'est une résultante de l'industrie et de l'art. Si tu es trop vers l'art, tu es un prétentieux. » Il rajoute « de mes deux », mais je voulais pas le dire, mais bon, je le dis. « Et si tu es trop vers l'industrie, tu es un marchand du temple. L'équilibre est incroyablement fragile. » Et je trouve que ça... ça résume énormément de choses. Et cet équilibre, vous le verrez, j'y reviendrai un petit peu plus tard, Mais l'équilibre, la justesse, je trouve que dans l'industrie de la mode, dans ce métier, c'est hyper difficile. Et c'est un peu la quête permanente, quoi. C'est être juste en permanence dans quoi que tu fasses. Quand tu fais un produit, quand tu fais une image, quand tu fais un logo, quand tu fais un post Instagram, c'est essayer de retrouver la justesse. Est-ce qu'on est dans le juste ou pas? Et ça, c'est quand même hyper difficile. Et je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais loin de là. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur Réunis sur cette dimension-là. En tout cas, ce rêve de devenir designer, DA, de monter ma marque de mode, il est au fond de moi depuis toujours. Et je le savais peut-être pas depuis le premier jour, mais en tout cas, ça fait longtemps que je le sais. Mais comme beaucoup de gens, eh ben, ce rêve, pour X raisons, je l'ai abandonné pour un projet beaucoup plus raisonnable. Donc, j'ai démarré ma carrière dans l'hôtellerie-restauration, avec toujours cette passion un petit peu en sourdine, en me disant au fond de moi, non, mais il va y avoir un retournement de situation. Je vais faire ce métier, je vais me retrouver dans la mode par une opération du Saint-Esprit, quoi. Et finalement, ce retournement, il n'a jamais eu lieu. Et j'ai eu un réveil assez brutal à 28 ans, une rupture amoureuse qui s'en est suivie d'une période un petit peu compliquée, un sentiment d'échec général qui m'a obligé à faire un travail sur moi-même pour me rendre compte que je n'étais pas du tout aligné avec moi-même. Et j'ai vu la vérité en face. Je n'étais pas du tout aligné avec moi-même. Je ne faisais pas ce que je devais faire de ma vie. Et donc forcément, quand on est déséquilibré, et ben, rien ne va dans ta vie, quoi. Alors j'ai décidé de sauver mon rêve et je suis retourné à l'école. Donc en 2015, quelques mois avant, j'ai cherché je me suis dit, ok, il faut que je retourne à l'école. Il faut que j'apprenne ce métier de designer, ce métier que j'ai toujours voulu faire. J'ai cherché des écoles, j'ai fait toutes les portes ouvertes possibles et imaginables. Et je suis tombé sur le Studio Berceau pour faire une formation de designer. Donc j'ai choisi le Studio Berceau pour plusieurs raisons. D'une part, c'était une école qui était renommée, avec des anciens élèves hyper talentueux et reconnus dans cette industrie. C'est une école avec un cursus qui est très court. Et je dois dire que j'ai eu un gros coup de foudre pour Marie Ruki, la directrice de l'école. Et je me rappellerai toujours de ce moment lors de notre première rencontre. J'étais dans son bureau. En fumée, elle avait la clope au bec, comme toujours. Elle m'a dit droit dans les yeux avec son regard un petit peu rieur, vous êtes fait pour ça. Et ça c'est quand même fort, parce que quand on est à 28 ans, un petit peu en quête de sens, enfin en recherche et un petit peu en mode panique, parce qu'il faut retourner à l'école et c'est hyper flippant de tout lâcher pour retourner à l'école, et d'avoir une dame de cette trempe et de cette renommée qui vous dit « Vous êtes fait pour ça ?» Et bien, c'est un côté rassurant. Je pense que c'était un peu méthode couée, mais en tout cas, je la remercie pour ça. Au bout d'un an et demi d'école, je décroche un premier stage chez Louis Vuitton à la maroquinerie avec Antoine Abel, que je salue. Et puis, un stage ensuite chez Balenciaga en tant qu'assistant d'Anna Xenia, que je salue également. Et finalement, je décroche un premier CDD chez Balenciaga. Et là, c'est un peu le Graal, parce qu'on se dit waouh, en l'espace de 2 ans et demi, même pas 3 ans, j'ai fait le switch. Je suis passé de l'industrie du sandwich à l'industrie de la mode. Et ça, c'était quand même hyper cool. Mais je dois dire que très vite, quand même, je me suis senti cloisonné. Je crois que j'ai vite compris que j'avais besoin de beaucoup plus et plus vite. Et qu'à 30 ans déjà, j'avais pas le temps de perdre du temps. J'avais pas le temps de prendre le temps, en fait. Ça, c'est mon côté très impatient qui, je pense, peut être un piège parfois, mais quand même, mais je crois que c'est essentiel, en fait. Donc, c'est à peu près à ce moment-là qu'est née en moi l'idée de fonder Entreprendre dans la mode. Pendant toute ma reconversion, j'ai compris que je trouverais les réponses chez les autres. Et je me suis toujours attelé à rencontrer un maximum de gens avec cette idée que pour apprendre et comprendre cette nouvelle industrie, je devais absolument rencontrer et questionner les gens qui la faisaient. Donc au début, et dès le départ, hein, quand j'étais encore à l'école, j'ai sollicité des cafés, mais ça ne marchait pas des masses. J'arrivais pas à rencontrer mes héros. Alors j'ai eu 2-3 cafés avec des gens qui étaient plus ou moins proches de cette industrie, mais j'arrivais pas à aller toucher des gens qui me faisaient vraiment kiffer, quoi. Et en parallèle du Studio Berceau, de mes stages, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts qui vivaient un petit peu leur renaissance. Alors aux États-Unis, il y avait déjà quelques podcasts qui existaient depuis quelques années, parce que les Américains, ils ont toujours entre 5 et 10 ans d'avance. Et donc j'écoutais notamment celui de Tim Ferriss, Et puis en France, la France vivait vraiment le revival du podcast, avec notamment Mathieu Stéphanie de Génération Lead Yourself, que je cite souvent, Siam Gibril de Génération XX, Lorraine Bastide avec La Poudre, Grégory Pouy avec Vlan, et j'en oublie plein d'autres. Mais en tout cas, j'écoutais ces podcasts-là et je trouvais ça mais hyper cool. Mais vraiment, c'était un truc d'une intelligence mais folle, quoi. Et puis finalement je me disais, j'étais un peu frustré parce que je trouvais pas un contenu de podcast qui pourrait m'accompagner dans la reconversion dans la mode. Donc ces podcasts, ils m'accompagnaient dans mes envies d'entreprendre et dans mes envies de renouveau, etc. Parce que ce que je dis souvent aussi, c'est que le podcast, ça ouvre des perspectives, mais il y avait personne qui faisait des podcasts de la même trempe qu'un Mathieu Stéphanie avec Génération Lead Yourself ou d'un Tim Ferriss sur l'industrie spécifiquement de la mode. Et donc à ce moment-là, je me suis dit mais banco, il faut que je le fasse en fait. Si je trouve pas le contenu que je veux, je vais le créer moi-même. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu un moment eureka où le podcast était finalement le moyen de régler pas mal de mes problèmes et de pallier à toutes mes envies et à mes besoins du moment. Je voulais rencontrer mes héros, mieux comprendre cette industrie, accélérer mon apprentissage, me faire un réseau, progresser dans la prise de parole aussi. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, mais avant le podcast, j'étais incapable. J'avais beaucoup de mal à prendre la parole. J'étais très stressé à l'idée de prendre la parole. Je ne trouvais pas mes mots quand je prenais la parole. Et surtout, je voulais apprendre à entreprendre et trouver des idées qui me permettraient de réussir dans la mode. Et puis finalement aussi mûrir mon idée d'entreprise. Alors en septembre 2017, après quelques mois de maturation, j'ai créé Entreprendre dans la mode. Au début, je voulais faire un podcast qui s'ouvre un petit peu plus loin que Entreprendre dans la mode. Je voulais appeler ça Entreprendre dans l'art, la mode et le design. Et être un petit peu le Colette du podcast. Finalement, je me suis reconcentré sur la mode en me disant si tu veux avoir un petit peu d'impact, il ne faut pas trop s'éparpiller, en tout cas pour l'instant. Il faut d'abord se positionner comme une référence sur la mode et ensuite peut-être si tu as suffisamment de légitimité dans cette industrie là tu pourras t'ouvrir. Et donc pendant tout l'été 2017 j'ai maturé le projet, donc le nom, les questions, la trame de questions, le matériel, j'ai réfléchi à qui je pourrais inviter dans l'immédiat, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines d'invitations à plein de personnes et je crois que j'ai dû avoir une, deux, trois réponses maximum et finalement j'ai eu un ami d'amis qui a accepté d'être interviewé, c'est Pierre-Edouard Derain, avec sa marque Encore, les chaussettes surprises aussi. Et ce premier épisode, il s'en est suivi des dizaines et des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, j'en ai plus de 120, 125 ce matin. Small Label, Cécile Rodreur vient de sortir ce matin, c'est le 125e épisode. Voilà, en tout cas, ça a été incroyable parce que j'ai pu rencontrer des acteurs, certains de mes héros, des gens qui font la mode, qui ont vraiment les mains dedans, qui sont connus, reconnus pour leur travail, pour leur talent. Et toutes ces personnalités, elles m'ont vraiment permis de modeler et de me faire un vrai avis et développer une vraie connaissance sur ce secteur. J'ai eu deux rencontres déterminantes pendant cette épopée du podcast. Ma première rencontre déterminante, c'est un peu l'élément fondateur de Réuni, c'est un peu la genèse de Réuni. Cette première rencontre, elle se fait pendant l'épisode 13, on est en janvier 2018, et je demande à un ami qui s'appelle Isaac de me mettre en relation avec une très bonne amie de sa tante. Et cette personne, cette interviewée, c'est Marie-France Cohen. Alors Marie-France Cohen, c'est une sommité dans le milieu. Elle est à l'origine de très grands succès dans l'industrie de la mode avec Bonpoint, Merci, Démodé. Mais pendant cet épisode, elle tient un discours qui me désarçonne complètement. Elle déclare « Ça n'a aucun sens de monter une marque de mode aujourd'hui. Il y a bien assez de vêtements et beaucoup d'autres causes à défendre. » Du genre sauver notre planète, régler la crise migratoire et plein d'autres sujets bien plus bouillants que la mode. Autant vous dire que pour moi, c'était juste la grosse douche froide. Je sors de cet enregistrement complètement sonné, mais en même temps, je me dis zut, alors mais elle a quand même raison, quoi. Elle met des mots sur une sensation que j'ai depuis quelques temps. Moi, de mon côté, à force de lire et de regarder des documentaires sur Netflix comme The True Cost, Demain de Cyril Dion, Conspiracy, je sais bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre monde, dans notre industrie, et que bah, elle a quand même un petit peu raison, quoi. Et en même temps, je sais que ce n'est pas le fait de créer des vêtements le réel problème, parce qu'on aura toujours besoin de s'habiller, et les vêtements, et ça je crois qu'elle le dit dans l'épisode, mais c'est un peu le reflet d'une époque, c'est le reflet de notre culture, ils sont le témoin de notre histoire, de notre passage sur cette planète. Le vêtement, c'est quand même l'expression du renouvellement de la vie, et en tout cas, moi, amoureux du vêtement et amoureux de la mode, c'est ce que je me dis. Et je comprends aussi un petit peu plus tard que le véritable problème de cette industrie, c'est pas de faire des vêtements justement, mais c'est la surproduction, c'est la surconsommation, c'est la multiplication des collections et l'obsolescence programmée des vêtements. Cette course à l'échalote de toujours vendre plus, c'est ça le vrai problème. Et Julia Ford de Loom, que j'ai interviewée assez récemment aussi, le résume très bien. Elle dit « La seule solution pour sauver la planète, c'est de moins produire, c'est de moins consommer. » Alors à partir de là, à partir de cet épisode 13, je décide de ne pas lâcher mon rêve, mais si je dois continuer et un jour monter une marque de mode, je dois le faire en créant une marque qui soit porteuse de sens et de valeur. Au fil de mes interviews, j'ai commencé à parler de plus en plus de sustainability, d'éco-responsabilité, de responsabilité sociale, et vraiment de creuser ces sujets-là en partant exactement du même postulat. Je n'y connais rien, on ne l'a pas appris à l'école, et la meilleure façon d'apprendre, de comprendre, c'est d'en parler, c'est de poser des questions. Et puis je me suis senti aussi une responsabilité parce que j'ai la chance d'avoir ce média, Entreprendre dans la mode, et que beaucoup de gens de l'industrie l'écoutent. Et je me dis, bah, il faut infuser, quoi. Comme un sachet de thé, il faut infuser cette bonne parole. Et j'ai même décidé de dédier aujourd'hui une émission à cela, qui s'appelle le Movers and Checkers Show. Et l'idée dans cette émission, c'est d'interviewer des personnalités engagées pour une mode plus durable, essayer de mieux comprendre les enjeux et partager avec vous, avec le reste de l'industrie, des solutions concrètes pour améliorer nos pratiques, tout en essayant de rester entertaining, quoi, amusant, ne pas être moralisateur, parce que c'est quand même le grand problème de souvent des gens qui tiennent ce discours. Ensuite, j'ai une deuxième rencontre qui était vraiment déterminante, et cette rencontre, je l'ai faite avec, c'est une rencontre avec un modèle économique, et plus spécifiquement avec William Ovette de la marque Asphalt. Alors Asphalt, vous connaissez sans doute tous, c'est une marque pour hommes, 100% web, et c'est un modèle hyper intelligent. Vous savez, le modèle traditionnel des marques de mode, il y a des designers, un bureau de style, un directeur artistique qui crée des collections. Ces collections sont produites, elles sont stockées, enfin elles sont vendues, on tente de les écouler. Si ça part, bah, tant mieux, sinon bah, les marques sont obligées d'écouler leur stock avec des soldes. Et si ça ne suffit pas, si les soldes ne suffisent pas, on doit les jeter, voire les détruire. Le modèle d'Asphalt, c'est tout l'inverse. En fait, ils créent le vêtement, un vêtement à la fois, ils le créent avec leurs clients au travers d'un questionnaire. Ensuite, ils proposent le vêtement en précommande et quand c'est précommandé, ensuite, ils le produisent. Et donc ça a plusieurs avantages, hein, vous l'avez bien compris. Avec ce modèle-là, ils répondent à la problématique bah, de surproduction et de gaspillage parce qu'ils ne produisent que ce qui a été commandé. Et deuxièmement, et ben, sans solde, sans invendu et sans magasin, bah, bien sûr, ils font des économies et ces économies, ce budget, ils le réinjectent dans la qualité du vêtement. Ils en font profiter leurs clients en proposant des prix plus, alors j'allais dire plus bas, mais ce sera plutôt plus juste, quoi. Et surtout, ce qui est important, c'est que le prix du vêtement n'est plus décorrélé par rapport au coût réel du vêtement. Ce modèle, je l'ai transposé à Réunis. Vous l'avez compris, on crée un vêtement à la fois avec notre communauté. On passe du temps sur le design, sur le choix des matières et sur le prototype, pour vraiment faire un vêtement durable, intemporel, qui fonctionne sur toutes les morphologies et qui résistera surtout à l'épreuve du temps. Puis, on le propose uniquement en précommande et ensuite, bah, vous connaissez la suite, on produit et on livre nos clients. Et je pense sincèrement que c'est vraiment la solution pour une mode plus responsable. Créer moins de vêtements, on crée des vêtements que l'on garde plus longtemps et tout ça à un prix plus juste pour le client. Et c'est aussi un des moyens de rendre la mode responsable plus abordable. Après ces deux rencontres essentielles avec Marie-France Cohen et et William Ovett. Il s'en est suivi une longue période de maturation pendant lequel on a beaucoup réfléchi. J'ai fait appel à d'autres personnes pour réfléchir avec moi parce que rester dans son coin c'est jamais une bonne idée. Il y a eu Jordan Salomé, il y a eu Gabriella Salor de Rose Beauty, il y a eu Vivienne Lipski qui passe souvent dans mon podcast, il y a eu Julien Garcia, mon frère, et puis toutes les rencontres que j'ai pu faire au fil de l'eau en rencontrant et en interviewant des gens sur entreprendre dans la mode. On a donc beaucoup bossé, écrit, j'ai fait des moodboards ou des tableaux d'inspiration en français. Et petit à petit, ça a pris forme, on a affiné le propos, l'univers qu'on voulait donner, etc. Mais dès le départ, une chose était sûre, c'est que j'avais envie de créer une marque pour les femmes qui aiment à la fois la mode, les belles choses, bien faites, l'artisanat, l'art, mais qui aiment aussi la vie, qui sont des bonnes vivantes, des épicuriennes, qui aiment se retrouver entre copines, en famille, autour d'un bon repas, autour d'une bonne bouteille de vin nature. Et aussi des nanas qui aspirent à plus de nature, à plus de simplicité, qui font attention à l'origine et à la qualité de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles se mettent sur la peau, qui ont une conscience écologique, qui ont envie d'autres choses aujourd'hui, qui font attention à ce qu'elles portent. Et finalement, je voulais faire ça parce qu'aujourd'hui, il y a encore peu de marques référentes sur la dimension éco-responsabilité. Ou alors, c'est un petit peu trop cher ou c'est pas assez mode. Cette marque, je voulais y mettre aussi beaucoup de ma personne, bien sûr, beaucoup de mon univers, beaucoup d'artistes et de gens que j'admire, en y infusant tout ce que j'aime dans la mode, vous savez, le workwear, les coupes, les beaux tissus, les couleurs, l'image, etc. Et je voulais aussi y mettre les valeurs qui me sont chères, la bienveillance, le partage, l'inclusivité, l'honnêteté. Et depuis le début, j'ai souhaité faire une marque qui parle aussi au plus grand nombre. Je suis toujours obsédé par cette idée de parler à tout le monde, comme un petit peu avec mon podcast Entreprendre dans la mode. J'aime cette idée d'interviewer des gens qui sont très pointus, qui sont très mode, qui sont des initiés de l'industrie de la mode, mais aussi à parler à des gens qui sont des débutants ou des gens qui sont peut-être plus mainstream, qui sont moins cool, entre guillemets. Et pour moi, réunis, c'est un peu pareil. J'ai envie que les gens très pointus comprennent le propos, mais aussi j'ai envie de parler au plus grand nombre et que une personne qui n'est pas forcément du milieu de la mode, quand elle voit le produit, elle dise « Ok, le rapport qualité-prix, il est juste dingue, quoi. Et le produit est beau et je le comprends et c'est pas farfelu, ça me parle, quoi. » Pour la partie éco-responsable, durabilité et sustainabilité, comme on dit dans le jargon, je me suis donc fait accompagner notamment par Jordan Salomé, j'en parlais un petit peu plus haut, de Gate Real. Jordan, grosso modo, Jordan, je l'ai rencontré via Entreprendre dans la mode, j'ai vu qu'il me suivait, je lui ai écrit, on s'est téléphoné, puis on s'est rencontré, ça a matché, et depuis on se lâche plus, c'est devenu un copain. Et Jordan, en fait, lui, il accompagne les marques de mode, et pas mal de marques de mode, hein, je dois dire qu'il se débrouille très très bien actuellement dans l'industrie. Et il les accompagne dans leur stratégie sustainability. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je travaille avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, et qui est très dur, qui est très, très entier sur la dimension éco-responsable et c'est très bien. Je vous propose donc d'écouter un extrait de notre conversation juste maintenant avec Jordan Salomé. C'est un enregistrement qu'on a fait il y a quelques jours. C'était une des soirées de lancement qu'on a fait pour Réuni. Et Jordan parle de la phase de maturation qu'on a eue avec Réuni. Cette période de maturation de Réuni, on l'a faite principalement avec Jordan. Qui est là, qui m'a accompagné, parce que franchement, faire une marque de mode responsable, c'est pas si simple que ça. C'est en fait, c'est toujours pareil, c'est par quel bout tu le prends, quoi. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être responsable aujourd'hui quand tu fais une marque de mode. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, la démarche qu'on a eue ensemble?
Ouais, alors peut-être sur un peu sur la genèse. Avec Adrien, on s'est rencontrés il y a peut-être un an quasiment, peut-être un peu moins. Et la première fois qu'on s'est rencontré, tu m'avais même pas encore parlé de ton projet, donc tu avais juste une envie profonde d'en savoir plus sur le sustainability, ce que ça voulait dire aujourd'hui, comment c'était traité dans l'industrie. Et je crois que très vite, d'abord, c'était un fit de personne. J'ai vu que pour Adrien, c'était quelque chose de... Son intérêt était authentique il n'avait pas forcément envie de le traiter dans son podcast, juste parce que c'était le trend du moment. Et au moment où il m'a parlé de sa marque, il m'a dit qu'il voulait créer une marque de mode d'abord. Donc ça, c'était la chose importante pour moi, parce qu'il y a des gens qui veulent créer des marques sustainable. Et c'est là où la démarche est tout à fait différente. Parce que le sustainability, c'est pas un objet marketing, c'est pas un USP, c'est pas forcément ce que les consommateurs recherchent à tout prix, quoi qu'on en dise. Et ça m'a montré vraiment l'authenticité de sa démarche. Et du coup, le travail qu'on a fait dès le début, c'était de poser les bases. Parce que Adrien, il a rencontré énormément de personnes. Il est allé chercher un petit peu toutes les bonnes pratiques un peu partout. Et très vite, tu peux tomber dans les travers de vouloir un peu additionner toutes les forces des marques de l'industrie et créer un monstre qui peut-être certes se rapprocherait d'une certaine perfection, mais qui lui ressemblerait pas du tout. Et quand on est créateur d'une marque, je pense qu'il faut créer quelque chose qui soit très proche de soi et de ses valeurs. Donc on a d'abord discuté de quelles étaient ses valeurs profondes. Est-ce que c'était plus intéressé par les sujets liés à l'environnement ou au social, à la communauté, etc. Et voir d'un point de vue marque comment on pouvait rapprocher un petit peu ces deux mondes-là et recentrer un petit peu le propos, parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas traiter aussi bien dès le départ, en tout cas, l'aspect social, environnemental, économique, écologique. Et donc voilà, vraiment poser les bases. Je pense qu'elle a un petit peu plus orienté dans là où il voulait aller, et aussi lui donner une certaine autonomie. Dès le début, mon but, c'était pas qu'il devienne dépendant, en tout cas, de mes connaissances, mais vraiment qu'il prenne le sujet à bras le corps et qu'il s'y intéresse. Et très vite, il l'a fait. Il m'a demandé très vite, justement, du matériel, des études, les sites à aller voir, les comptes à suivre, etc. Et il a su vraiment créer ses propres convictions. Et je le félicite pour ça, en tout cas, parce que maintenant, il vole plus ou moins de ses propres ailes, donc, ouais, en tout cas sur ce sujet.
T'es jamais trop loin non plus, quand même, à chaque fois qu'on a des doutes, parce que franchement, c'est un sujet qui est complexe, et tout autant qu'on est, alors qu'on soit dans la mode ou pas, ici dans la salle, c'est quand même une matière qui est assez nouvelle et qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Et donc, il faut avoir beaucoup d'humilité à chaque fois, parce que c'est loin d'être simple de faire une marque éco-responsable, que ce soit sur la matière et sur comment en parler, justement. Suite à ce travail avec Jordan, on s'est fixé une mission. On voulait montrer à notre niveau que l'on pouvait faire de beaux vêtements tout en ayant un impact positif et durable sur le monde, notamment via une production raisonnée, en utilisant la précommande, en travaillant sur une seule pièce à la fois et en mettant en place des solutions d'économie circulaire, en travaillant avec des matières 100% naturelles pour la recyclabilité du vêtement et optimiser la durée de vie des vêtements surtout. En mettant l'idée de collaboration au cœur de notre projet, parce qu'on pense que pour faire bouger les choses, c'est pas en restant seul dans son coin. Et cette idée de collaboration, on aimerait vraiment l'infuser comme un sachet de thé à tous les étages de Réunis, d'abord avec nos clients, en co-créant avec eux les vêtements et la marque, avec des super designers à chaque fois. On veut aller chercher des gens qui sont des très bons designers, qui sachent faire d'excellents produits. Ça, c'est une obsession et ça sera toujours une obsession pour Réunis. Avec nos partenaires, qu'on implique plus que d'ordinaire dans le projet et qu'on met en lumière aussi, on les met face caméra, on les met en lumière, on parle avec eux, on est fiers de travailler avec eux, en fédérant d'autres marques et initiatives autour d'un projet commun, celui d'améliorer les pratiques au sein de notre industrie, et en favorisant entre elles le partage des bonnes pratiques. Ce qu'on a commencé à faire d'ores et déjà avec un groupe qui s'appelle les Green Lanterns, où on a quelques partenaires, des petites et moyennes entreprises qui, quand on a un sujet, on pose une question et on essaye de partager les bonnes pratiques. Puis à partir de ces idées, on a créé notre vidéo manifeste. Cette vidéo manifeste, l'objectif était assez simple, hein, c'était essayer de réunir autour de nous des personnes qui partageaient nos valeurs dans l'objectif de co-créer la marque avec eux et de co-créer le premier vêtement. Cette vidéo, en fait, c'était... on a pris plein d'images d'archives, on les a mis ensemble, on a écrit un texte qui a exposé vraiment le manifeste de Réuni, et mon petit frère qui travaille dans la vidéo et qui est un excellent monteur, Bastien Garcia, et sa fiancée, bien sûr, que je dois citer aussi, Célia Mila. Et ben, on a fait une vidéo, elle a fait la musique, Bastien a monté les images, et ça rend un truc assez puissant. Bien sûr, j'ai profité du 100e épisode d'Entreprendre dans la mode pour annoncer le pré-lancement de Réuni, et là, on était à peu près fin juin. Cette vidéo, on l'a mis sur une landing page. Les gens avaient la possibilité de laisser leur email pour s'ils souhaitaient construire avec nous cette marque. Et quand ils recevaient, enfin le premier email qu'ils recevaient, c'était le questionnaire pour le gros pull d'hiver. On a également fait un compte Instagram sur lequel on a parlé de nos valeurs, de notre projet, ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Puis on a commencé à tout raconter sur des articles Facebook et sur des articles LinkedIn aussi, de l'origine du tissu jusqu'au calcul du prix de vente. Pour nous, cette volonté de transparence dès le départ, on pense que c'est vraiment la solution pour aller petit à petit vers une mode plus responsable, faire de la pédagogie autour du vêtement. On n'est pas les premiers à le faire, hein. Il y a des gens comme Bonne Gueule qui le font très bien. Je les salue d'ailleurs. Mais cette idée d'expliquer comment on fait un vêtement, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi on fait ce choix de matière, etc., sans être chiant, bien sûr, c'est une des clés du succès de Réuni, et surtout c'est une des clés d'une mode plus responsable. Maintenant, je voudrais vous parler de comment on a fait le gros pull d'hiver. Déjà, pourquoi on a fait un gros pull? La première raison, c'est simple, hein, c'est qu'on lançait fin septembre, début octobre. L'autre raison, c'est parce qu'on adore la maille, et que le pull, ça reste un des vêtements les moins clivants, et a priori, et je dis bien a priori, ça reste un des vêtements les plus simples à faire. Et on s'est rendu compte que c'était pas si simple, en fait. Puis on a invité les personnes qui nous suivaient à co-créer la première pièce avec nous, en leur envoyant donc ce fameux questionnaire, pour créer avec eux le meilleur pull possible. On a eu 1008 réponses, exactement. Franchement, c'était délivrant, car on s'est rendu compte que quand on imaginait, nous, notre archétype et le meilleur produit possible, eh ben, c'était assez éloigné de ce que vraiment les gens voulaient. En fait, les gens, on se rend compte qu'ils veulent tous la même chose. On a aussi passé pas mal de temps au téléphone avec certaines des personnes qui avaient répondu à notre questionnaire. Et là, encore une fois, on a creusé et affiné notre produit. Dès juillet, on avait une très grosse tendance sur le questionnaire. Et grosso modo, les personnes qui ont répondu au questionnaire voulaient un pull très doux, vraiment costaud, qui ne bouloge pas, ne rétrécisse pas. Et le prix de vente, la grande tendance qui se dégageait, c'est qu'il ne fallait pas qu'on dépasse les 130 euros. Pour le style, la grande majorité des personnes ont dit qu'elles voulaient un pull assez court, plutôt ample, un col rond, uni. Et les couleurs, encore une fois, c'était, c'était la grande tendance. Enfin, c'était le noir, l'écru, le bleu marine, ou en tout cas le bleu gendarme, comme on l'appelle aujourd'hui. Nous, on a rajouté une quatrième couleur orange parce qu'on avait envie aussi de faire un petit peu de couleur et qu'on rêvait d'avoir un pull orange. Et c'est à ce moment-là que rentre en scène notre designer. Donc on a appelé Wanju. Wanju, elle faisait partie de notre réseau. C'était ma professeure de maille au studio Berceau. Et c'est quelqu'un qui, en plus d'être complètement passionné par la maille, c'est quelqu'un qui tricote H24. Hein. Toute la journée, elle fait des freelances, elle bosse pour des marques comme Etude Studio, pour Uniforme Paris. Et quand elle rentre à la maison le soir, elle continue de tricoter. Donc c'est vraiment une véritable passionnée. Et en plus d'être d'être une grande professionnelle, c'est quelqu'un qui est hyper sympa et qui a un savoir-vivre qui est juste ouf, et on adore bosser avec elle. Donc ensemble, on a décortiqué le questionnaire, on a bossé sur le design pour vraiment trouver la bonne proportion qui fonctionne sur toutes les morphologies. On a cherché aussi à trouver le petit détail qui fera vraiment la différence, le fameux twist de Réuni. Et donc, bah, comme dans n'importe quel studio de création, on a d'abord fait des recherches iconographiques, on a été chercher des vintage et on a fait des maquettes. On a acheté des vieux pulls, on les a coupés, découpés, assemblés pour trouver notre forme, notre pièce unique, quoi, notre bon basique avec un twist. Et dans l'extrait qui suit, avec Wanju, on explique que l'idée était de suivre les envies des personnes qui avaient répondu au questionnaire, mais qu'il fallait aussi lui apporter la petite touche réunie pour en faire une pièce vraiment unique. Le brief de départ, c'était vraiment de faire une pièce qui soit un intemporel, mais qui ait un côté mode aussi quand même. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on veut être une marque qui est responsable, qui est conscious, tout ce que tu veux. Mais on vient de la mode et on aime les pièces qui aient de la gueule, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai été chercher Wanju, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai, un vrai talent, une vraie compréhension de ce que c'est qu'une pièce mode. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a rajouté en petit détail pour faire ce twist? Parce que le mot que j'avais au départ, c'était de dire je voudrais qu'on fasse des produits aussi qualitatifs qu'un Hermès, aussi élégants qu'un Céline sous Phoebe Philo, et avec cette dimension, la dimension, les valeurs de Patagonia. Donc c'était très ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'on y soit encore, mais en tout cas, c'est notre objectif. Tu vois, tu veux parler de qu'est-ce qu'il a de twist, ce pull?
Au début, on avait pensé, ok, on va ajouter un petit détail, mais c'est pas très gênant. Mais c'est un peu stylé, pas gênant. Donc du coup, on a cherché image, aussi en pull, l'image des vintage. Donc voilà, on a utilisé le cardigan stitches plus half cardigan stitches. Ça donne plus de volume, mais c'est pas trop lourd. Donc là, le pull... presque 1 kg, mais c'est pas 1 kg, mais quand vous portez, c'est pas très lourd, mais c'est plus de volume. Donc
c'est costaud, mais c'est pas étouffant non plus. Et c'est vrai que la sensation que les gens ont, c'est que c'est pas étouffant comme, comme pièce.
Ouais. Après, les finitions bien serrées et tout ça.
Alors, après, pour le fil, on s'est creusé la tête parce que. Ça a été un vrai sujet. On a beaucoup parlé avec Jordan et je me suis beaucoup pas battu, mais c'était compliqué de faire un choix parce que Jordan, lui, était. Tu peux nous raconter un petit peu quels étaient tes recos et comment on quelle solution on a trouvé finalement pour essayer de cocher toutes les cases.
Bah, au départ, on se posait la question justement de quel type de matière utiliser ? Est-ce qu'on utilise de la laine vierge ou est-ce qu'on utilise plutôt de la laine recyclée, mais pas forcément recyclée post-consumer, donc c'est-à-dire des pulls que vous donnez dans les bennes, etc., et qui potentiellement à la fin sont recyclés, et ça il n'y a quasiment aucune chance, mais d'utiliser des rebuts de l'industrie. Parce que les grandes marques de luxe, en tout cas, laissent beaucoup de reste derrière eux. Et il y a certaines matières recyclées dans la laine, voilà, qui utilisent ces rebuts-là. Par contre, c'est des laines qui sont potentiellement très douces, très bonne qualité, mais qui sont extrêmement chères parce qu'il y a très peu de volume. Et à partir du moment où on a vu le prix, ça cochait plus la case de « on veut rendre un produit responsable accessible ». Parce que c'est hyper facile de construire une mode qui soit responsable et qui veut s'approcher de la perfection, mais on va taper dans des pulls qui sont à entre 300 et 400 euros. Et la mode responsable, pour l'instant, c'est quasiment... Enfin, circonscrit à une élite, quoi. Aux gens de Paris, de grandes villes, qui peuvent se payer voilà, des pulls très chers. Et nous, on voulait réduire le gap. Après, ça reste un produit qui est pas accessible à tout le monde, mais on a essayé au maximum de faire les arbitrages pour réduire ce gap-là. Et la laine recyclée, en tout cas, pour la qualité qu'on attendait et le prix, cochait plus ces cases-là. Ouais. Donc c'est à partir de ce moment-là où Adrien, t'es allé...
Je suis allé voir Stéphane. Je fais une petite transition pour vous présenter Stéphane Laliève. C'est notre agent de filature et c'est lui qui nous a vraiment aidé à choisir et trouver, sourcer le bon fil pour le gros pull d'hiver.
Et du coup, ouais, effectivement, les produits recyclés, ils ont quelques avantages. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils existent, hein, en laine. Faire de la laine recyclée ou des mélanges de laine recyclée avec de l'acrylique ou du polyamide, ça existe depuis longtemps. Mais bon, ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas... c'est pas le choix que vous avez fait et surtout l'idée c'était de partir sur un 100% laine et pas sur une matière avec du synthétique, là encore pour plein de raisons. Voilà, tout de suite, je trouve que c'est une bonne idée, surtout que effectivement le choix ça a été de choisir une laine mérinos, une mérinos fine pour qu'elle soit douce mais qu'elle se tienne bien dans le temps, parce que la laine, figurez-vous que plus c'est doux, plus c'est fragile. Et du coup, il faut faire attention, c'est-à-dire que plus c'est doux, la qualité et la manière dont ça vieillit, c'est pas la même chose. Et du coup, il faut faire attention à ça. Donc, laine mérinos fine, peignée, donc traitée irrétrécissable, donc lavable facilement. Ça, c'était vraiment la chose importante. Ensuite, un prix qui reste intéressant, compétitif. Alors, malheureusement, Adrien n'a pas choisi la meilleure période pour faire ce choix, puisque la laine, en 2 ans, a dû à peu près doubler. Puisqu'on l'oublie, mais on parle de matière naturelle, avec des prix, des cours, des enchères chaque année. Les Australiens sont très aimables, c'est des gens charmants, mais qui aiment bien vendre leur laine le plus cher possible. Et du coup, en 2 ans, ça a doublé à peu près. Hein. Wanzhou, tu confirmeras. Et du coup, c'était pas évident de faire le choix du 100% laine parce que voilà, c'était une belle matière qui a un certain prix. Bon, l'idée c'était de se fournir chez Eduardo Miroglio. Alors c'est une filature qui est très importante. C'était le groupe Miroglio en Italie. C'est bon, entre cousins là-bas en Italie. Donc c'est une partie de la famille Miroglio qui a décidé de continuer à investir dans l'industrie et dans l'industrie en Bulgarie. Enfin, la teinture est faite en Italie, mais la filature est en Bulgarie pour différentes raisons. Et donc, ça veut dire qu'on a une fabrication en Europe d'un fil naturel, 100% laine, et à un prix qui reste raisonnable, mais qui est quand même important parce que tu as fait le détail. Hein,
ça coûte 30 euros du kilo, il faut le dire.
Du coup, c'est quand même un des postes les plus importants dans le coût du produit. Donc tu aurais pu faire un autre choix.
Oui.
Bon, et en fait non. Donc ça tombe bien, puisqu'on a pu proposer ça. Et en plus de ça, on s'est pas limité à ça. Et donc l'idée c'était aussi de faire un produit, parce que des produits 100% laine, il y en a plein, hein, il y en a plein de toutes sortes, etc. Mais là l'idée c'était d'avoir un produit 100% laine qui corresponde aussi à ce souci de éco-friendly, etc. Et l'idée, c'est exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de faire de pas trouver la matière ni le fil parfait, parce qu'en fait, il n'existe pas, mais de faire le mieux possible, dans l'état actuel. C'est pour ça que, par exemple, les produits bio, les teintures bio dans l'industrie n'ont jamais vraiment fonctionné, parce que, évidemment qu'on sait faire des teintures bio, mais on ne sait pas faire une teinture bio avec une couleur qui ne disparaît pas au bout d'une journée. Parce que tout ce qui est chimique dans la teinture, ça sert à quelque chose, et notamment à ça. Donc, il fallait faire le mieux possible, et la laine, la laine que tu as choisie, le Best Wool, c'était une laine qui était, c'était pas évident parce que c'est des choses qui sont pas si vieilles que ça, qui font attention à la manière dont les moutons sont traités. Alors les moutons, ils ont de la chance parce qu'on les tond, c'est pas très douloureux. Disons que les gens qui les tondent ne sont pas toujours... ils sont un peu pressés parfois, donc bon, voilà. Ça peut être un peu tonique, mais ça va, c'est pas douloureux. Par contre, il y a quelque chose que, justement, cette laine n'est pas concernée par ce traitement, qui est un traitement que les Australiens font subir, alors là, pour le coup, je crois qu'on peut le dire, à leur mouton, qui s'appelle le mulesing. Donc cette laine est mulesing free, c'est-à-dire que le mulesing, c'est une opération chirurgicale qui se fait sans anesthésie, qui consiste à enlever des glandes aux moutons pour éviter qu'ils soient parasités, qu'ils soient infestés de parasites. Donc c'est quand même pour son bien, hein, mais simplement c'est pas très sympa. Et tout ça, c'était pour éviter les antibiotiques. Donc quand les associations de protection animale ont dit mais le mulesing c'est quand même barbare, hein, il faut faire autrement. Bon, bah alors on a qu'à refaire les antibiotiques. Ah ben non, les antibiotiques, c'est pas bien non plus. Alors comment on fait ? Donc les éleveurs, certains éleveurs, mettent en place des élevages fermés où les moutons ne risquent pas d'être infestés. Voilà, on a contourné le problème, c'est-à-dire qu'au lieu de les traiter aux antibiotiques, au lieu de leur faire cette opération pour éviter qu'ils soient parasités, on essaie de s'organiser pour qu'ils ne rencontrent pas les parasites. Et ça a eu un avantage collatéral super intéressant, c'est que pour faire ça, du coup, ils se sont rendus compte que c'était plus facile et plus efficace si en plus, ils faisaient attention dans la manière dont ils traitaient les sols, dans la manière dont ils donnaient à boire aux animaux, etc. Donc vraiment, ça s'est beaucoup amélioré de ce point de vue-là. Ensuite, ça c'est la partie laine, hein, la partie matière première. Ensuite, dans le fil, bon évidemment, les teintures respectent toutes les normes européennes qui sont les plus strictes, etc. Mais en plus, cette laine-là en particulier dans le traitement irrétrécissable normalement. Alors c'est toujours pareil, on dit ouais, le traitement irrétrécissable, bah, super, ça rétrécit pas la laine. Non, c'est avec tout le chlore qu'on y met, ça risque pas. Hein. Allez. Alors généralement quand vous avez dit ça, ça refroidit un peu tout le monde. Ah bon, il y a du chlore dans les... Bah oui, dans la teinture, on rajoute du chlore. Alors rassure, hein, c'est dans des quantités raisonnables, hein, mais c'est pour éviter que, notamment pour essayer d'enlever un peu toute la fibre qui est en surface. Et en enlevant toute la fibre qui est en surface, on limite les risques ensuite de rétrécissement, de boulochage, etc. Et Miroglio a mis au point un traitement qui permet d'éliminer le chlore. C'est-à-dire qu'on est toujours irrétrécissable, mais en modifiant, et alors là, on a touché aux limites de la transparence avec notre filateur, c'est qu'ils ont mis au point quelque chose qui leur permet, en modifiant les températures, en modifiant la durée de la teinture, etc., d'avoir le même résultat en termes d'irrétrécissabilité.
Bon, ouais.
Merci. J'ai pris un risque. Dès que j'ai commencé le mot, je me suis dit que je n'y arriverai pas.
Ouais, il n'est pas facile.
Et du coup, donc, on est irrétrécissable sans le traitement en chlore. Donc, bon, il l'appelle best tool, alors évidemment, ça fait un peu... Mais n'empêche que effectivement, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est probablement la meilleure laine qu'on puisse trouver sur le marché, avec toutes ses caractéristiques, et en plus, avec un prix qui reste intéressant. Tu as pu aller sur place, visiter, et comme en plus, ils ont apprécié... J'espère que tu as apprécié, toi, la visite, mais comme eux... apprécié à toi en plus, tu as eu un prix intéressant, donc c'est bien.
Ouais, parce qu'en fait à chaque fois on va visiter toutes les manufactures, etc. C'est hyper important pour nous d'aller voir ce qui se passe concrètement derrière. Et donc j'ai été en Bulgarie, j'ai été aussi dans la tricoterie, on en parlera juste après. Ce qui est important aussi, moi j'avais une question quand même, parce que c'est une question qui revient souvent. C'est pourquoi, alors tout à l'heure il est touché un petit peu ce sujet-là, Jordan, pourquoi on n'est pas parti sur du recyclé et pourquoi on source notre matière en Nouvelle-Zélande et en Australie plutôt. En Australie.
Bon, d'abord le recyclé, le problème du recyclé, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est soit du post-consumer, soit du rebut de production, du pré-production. Bon, post-consumer, c'est surtout le coton. On récupère des t-shirts, des sweats, on les redécoupe, on en refait de la fibre finalement, et de cette fibre, on en refait du fil. La laine, c'est différent, c'était effectivement des rebuts de production qui étaient souvent... Il y avait deux types de rebuts de production. Il y avait d'abord la fibre qui vole un petit peu dans l'usine quand on fait la filature, qu'on récupère le soir et dont on refait du fil. Ou alors, à l'époque, je dis à l'époque parce que maintenant c'est différent, parce qu'on tricote en forme, mais à l'époque on tricotait en panneau et où on découpait dans le panneau le devant, les manches, etc. On avait beaucoup de pertes, on avait 40 ou 35 ou 40% de pertes. Et de ce tricot-là, on en refaisait de la fibre et du fil, etc. Donc ça existe depuis longtemps, on connaît les techniques. Le truc, c'est que d'abord, c'est jamais du 100% recyclé parce que on n'aurait pas les solidités nécessaires. Donc c'est surtout, on appelle ça du neuf ou du recyclé. Donc c'est surtout, enfin c'est toujours une partie de laine neuve et une partie de laine recyclée. Et surtout, la laine recyclée, la fibre est courte. Alors effectivement, ça peut être doux, ça n'empêche pas, mais n'empêche que, par contre, la fibre courte, ça pose un vrai problème de, pour faire simple, de boulochage. C'est-à-dire que plus la fibre est courte, plus elle risque de boulocher. Donc avec un produit recyclé, on a d'abord un produit qui est rarement 100%, qui est plutôt des mélanges d'acrylique polyamine, donc vous ne vouliez pas. Et en 100% laine, on a quand même un produit qui... il y a des 100% de cachemire aussi recyclés, hein, ou avec une partie de recyclé... Bon, on prend un risque, effectivement, sur la qualité. Et tu ne voulais pas prendre de risque sur la qualité, puisque ça faisait partie des choix de départ.
Ça faisait partie surtout du cahier des charges de nos clientes, qui voulaient un pull qui soit extrêmement doux, qui ne bouloche pas, qui ne rétrécisse pas, qu'on puisse passer à la machine à laver, etc. Donc tout ça, en fait, on s'est mis une pression folle, justement parce que nos clientes voulaient le produit parfait, quoi.
En Australie, parce que c'est le pays qui fournit la plus grosse quantité de laine dans le monde et qui est bien adapté à l'habillement et au tricotage en particulier. Il y a de la laine en Nouvelle-Zélande, mais c'est plutôt confidentiel, c'est très intéressant, elle est belle leur laine, hein, mais bon, c'est beaucoup moins en termes de quantité. Il y en a en Amérique du Sud, on pense aux fermes du groupe Benetton, là où ils ont des dizaines de milliers de têtes de moutons, donc ça existe. Mais
d'abord, en France, on a des moutons aussi, non ?
Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les laines de pays. Alors, les laines de pays, c'est bien. Il y a même des mérinos, puisqu'il y a des mérinos d'Arles. Mais c'est pareil, il y en a très peu. C'est plutôt confidentiel. Alors, la mérinos d'Arles est confidentielle. Et le reste de la laine, en France, est une laine qui a un gros avantage, hein, c'est qu'elle est française, mais qui a un gros désavantage, c'est qu'elle n'est pas adaptée, elle n'est pas très adaptée à l'habillement. C'est-à-dire que moi, je viens de la région de Mazamet de Castres, donc, qui était la capitale de la laine après-guerre et jusqu'à dans les années 80-90. Je ne sais plus pourquoi. Je voulais absolument placer que j'étais de Mazamet, mais je ne sais plus pourquoi.
Parce qu'il y a des laines de pays là-bas.
Ouais, mais non, pardon. Non, mais pas du tout. D'ailleurs, à Mazamet, on travaillait des laines australiennes.
Ouais.
Donc, on avait des laines sur place, mais on ne les utilisait pas parce que le micronage, on a parlé de la fibre qui est courte. Et le micronage, c'est le diamètre de la fibre. Et plus le micronage est fin, plus la fibre est douce. La laine, comme n'importe quelle autre fibre. Donc, les laines de pays, pour donner des chiffres, c'est 26, 27, 28 microns. La laine mérinos, c'est fine, c'est 21 microns. La laine mérinos extra fine, c'est 19,5 microns. Le cachemire, c'est 15 microns. Donc, on descend.
Plus c'est fin, plus c'est doux.
Ouais, voilà. C'est pas une façon de parler. On en parlait quand on s'est vu. Les laines de pays en France, on s'en sert plutôt pour mettre dans les futons. Ou là où personne ne la touche. Parce que sinon, alors c'est rustique. Encore une fois, c'est un choix. Hein. Mais je crois pas que c'était le choix que tu voulais faire. Et en plus de ça, on n'a plus maintenant de filière. Pour les agriculteurs, la laine était un déchet. C'est-à-dire qu'ils payaient le type qui venait tondre les moutons. C'est lui qui payait. On ne lui payait pas sa laine. Hein. Il payait pour qu'on vienne tondre les moutons et qu'on lui débarrasse la laine. Et au pire, il l'a brûlée au fond du champ. Donc c'est dire que vraiment, il n'y a plus beaucoup de filatures, il n'y a plus beaucoup... Voilà, bon, malheureusement...
En tout cas, tout ça, là, tout ce qu'on vous explique très simplement et très rapidement, nous, on l'a appris en quelques mois et de déconvenu en déconvenu finalement. Parce que nous, quand on partait au départ, on disait mais on va faire du recyclé, du made in France, etc. Et finalement, on s'est un peu cassé le nez sur tous ces trucs-là. Quoi. Ensuite, je vais vous parler de la bonneterie. Une bonneterie, c'est vraiment là où sont tricotés les pulls. Une nouvelle fois, la bonneterie, c'est grâce à Wanju qu'on l'a trouvée. La bonneterie, elle s'appelle Finatex. C'est une entreprise familiale qui compte une cinquantaine de salariés et qui a été fondée il y a 33 ans par Augustine Rodriguez et Josefina Valentin. Aujourd'hui, c'est leur fille Alicia, que vous avez peut-être déjà vue en photo ou sur IGTV, qui est aux commandes de l'atelier. On a réussi à convaincre les Rodriguez de bosser avec nous en plein mois d'août. C'était vraiment un gros challenge. Ils ont été hyper réactifs. On a reçu un premier proto fin août. Alors, c'était pas forcément le bon. C'était pas exactement le produit qu'on attendait. Mais on avait un premier proto. Et c'était soulageant, une fois de plus, de sentir qu'il y avait des gens qui nous suivaient, qui avaient envie de bosser avec nous. Vous savez, c'est pas si simple hein, de trouver un atelier. C'est comme tout, quand il y a de l'humain, il faut établir vraiment une relation de confiance, montrer patte blanche. Et quand on n'a pas d'antécédents, pas de passif et pas de commande ferme, c'est que au feeling qui vous font confiance. En tout cas, nous, on est hyper contents de bosser avec Finatex. Ils nous suivent depuis le premier jour. Ils nous ont fait des protos. Ils nous ont fait des tarifs qui étaient plutôt intéressants. Et franchement, on conseille tout le monde de bosser avec eux. Un truc que je veux rajouter, c'est qu'une des raisons pour laquelle on fait appel à des designers à chaque fois, c'est qu'en plus de faire un excellent produit, quand on va voir un designer, on achète aussi ses services pour avoir accès à un réseau de filateurs, un réseau d'ateliers, de confectionneurs, enfin de gens qui font de la confection. Et ça, mine de rien, eh ben, c'est un vrai prix parce que cette relation de confiance que par exemple Wanju a tissé avec Stéphane, que Wanju a tissé avec Alicia de chez Finatex, eh ben, ça n'a pas de prix. Parce que quand Finatex ou quand Stéphane nous ont vu arriver et qu'on était envoyé par Wanju, clairement ils ont ouvert la porte, ils nous ont écoutés et a priori ils avaient plus confiance en nous que si on avait toqué à la porte sans l'intro de Wanju. Pour la logistique aussi, on a voulu nous engager et on travaille donc avec Caresse. Et dans cet extrait, Jordan Salomé raconte un petit peu ce choix-là.
Juste pour mettre dans le contexte aussi, le plus gros de l'impact qu'a une marque au niveau développement durable, c'est sur la matière et sur la production. Donc là, le job, on a fait au mieux possible dans les prix, etc. et dans le cahier des charges qu'on s'était fixé. Et après, autour de ça, bah, y a toutes les questions de supply chain, de logistique. Comment votre produit arrive de la bonneterie jusqu'à potentiellement un entrepôt dans Paris et après il est dispatché justement aux personnes qu'on commandait. Alors là, pour faire ça, il y a plein de solutions possibles. Nous, on s'est dit quel serait le meilleur partenaire possible pour bosser avec nous là-dessus et c'est là où j'ai mis Adrien en contact avec le groupe Ares, donc à plusieurs on va dire, je suis désolé, j'ai plus le mot en français, ça fait un peu pédant, mais dispatch center en région parisienne.
Centre logistique, non ?
Voilà, en région parisienne. Et leur démarche, c'est d'accompagner des personnes en grande précarité via le travail et via leur centre pour faire de la réinsertion. Donc voilà, ils engagent absolument que des personnes comme ça qui restent sur des périodes d'un voire max 2 ans et qui étaient potentiellement, je ne sais pas, SDF avant ou réfugiés ou dans des centres sociaux, etc. Les réhabiliter via le travail et après leur permettre de se reconstruire, de trouver une autonomie. Et donc ce groupe Ares, ils ont cette démarche sociale qui était hyper importante pour Adrien et aussi... on a essayé de mettre avec eux en place une démarche écologique, notamment via les polybags. Donc polybag, c'est un peu le gros sujet qui cristallise un peu toutes les marques. Le polybag, généralement, c'est ce sachet en plastique dans lequel est mis votre vêtement quand il est... donc voilà, à la manufacture, il est mis dans un sachet en plastique pour éviter qu'il prenne les odeurs lors du transport ou s'il y a de l'humidité, etc. Et il est envoyé au dispatch center, au centre logistique. Et après, généralement, parfois, vous le recevez comme ça. Et le polybag, généralement, c'est du plastique qui est non recyclé. Quand vous le recevez à la maison, vous le mettez dans votre poubelle de recyclage dans le meilleur des cas. Et derrière, rien ne nous donne la certitude qu'il est réellement recyclé. Parce que si on regarde tout ce qu'on met au recyclage à Paris, max 20% est réellement recyclé. Et il y a des alternatives pour ça. On parle de plastique biodégradable, plastique compostable. Alors là, il y a encore moins de chances parce que des composts... Quand on dit compostable, c'est pas forcément un plastique qu'on peut mettre dans son compost de jardin. Il faut des composts industriels. C'est des process qui demandent aussi énormément de ressources. Donc pour nous, c'était pas forcément la meilleure solution. Et il y avait ces plastiques recyclés. Donc on s'est dit d'abord... utiliser du plastique qui a été recyclé et in fine quand on le reçoit au centre logistique, au lieu de vous l'envoyer et vous mettre cette pression du plastique sur les épaules, l'idée c'est de récupérer ce plastique là et via notre centre logistique on s'assure qu'il est réellement recyclé derrière. Donc c'est un travail qu'on a fait avec le groupe Ares. Et après, votre produit, une fois qu'on a retiré ce plastique à usage unique, on vous l'envoie dans un emballage qui, encore une fois, on souhaitait qu'il ne soit pas à usage unique. Donc c'est là où on s'est associé à Ripack, donc qui sont assez connus maintenant au niveau des marques de mode. Gany l'utilise, Reformation l'utilise, enfin il y a énormément de marques qui utilisent Ripack, où en fait, une fois que vous recevez votre pull dans ce repack, donc qui a un emballage qui a été recyclé et qui est plutôt épais, vous avez juste à le replier sur lui-même et à le mettre dans la première boîte aux lettres que vous voyez dans la rue, et après il revient dans le système. Donc c'est-à-dire qu'il revient à l'entrepôt repack, qui vont le renvoyer une autre marque pour qu'il soit réutilisé. Et un emballage repack va être utilisé en moyenne une douzaine de fois, entre 12 et 20 fois. Et après, il sera recyclé encore une fois, pour en faire un nouveau produit. Donc vraiment, le but, c'était d'éviter trop de déchets, en tout cas limiter les déchets, les réutiliser le maximum et recycler autant que faire se peut.
En conclusion de ce premier épisode, donc le journal de bord de Réunis, épisode 1, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, on est encore sur Ulule et on passera sur notre propre site si l'aventure continue. Le gros pull d'hiver, on le propose pendant quelques jours encore en précommande sur Ulule uniquement. Et à terme, on veut développer avec la communauté de Réunis d'autres essentiels du vestiaire féminin. Dans la même veine que le gros pull d'hiver, on a déjà notre petite idée de ce qu'on va développer parce qu'on a déjà envoyé un questionnaire à notre communauté. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on développe en priorité sur 2020. Et on va continuer à nous améliorer et essayer à notre niveau de montrer l'exemple autant que possible. Maintenant, avant de vous quitter, je voulais vous remercier, vous, les personnes qui ont participé à la co-création du pull en répondant au questionnaire, et celles qui l'ont déjà acheté. Juste un grand merci parce que vous imaginez bien que c'est le nerf de la guerre. Et voir certains d'entre vous essayer le pull lorsqu'on a fait des pop-up, le toucher et voir que ça allait sur plein de morphologies différentes et voir la réaction des gens et de nos futures acheteuses en direct, c'était vraiment quelque chose de très puissant. Et à chaque fois que quelqu'un met le pull et réagit de façon positive, vous n'imaginez même pas comme ça nous met de l'énergie pour continuer à développer cette marque, et on se dit qu'on va dans le bon sens. En tout cas, cet exercice de monologue, bah, ça n'a pas été facile, une fois de plus, c'est une première pour moi. Donc je vous invite à me faire des feedbacks sur les réseaux sociaux et à me poser des questions, et je serai ravi d'y répondre dans un prochain épisode. Et pour en savoir plus sur Réunis, le gros pull d'hiver, les liens sont dans les notes de l'épisode. À très bientôt, salut !